Technologie, science, algorithme,
simulation,
informatique.
Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans le 91e épisode du podcast Interstice. C'est une réalité de plus en plus avérée, les sciences du numérique sont présentes dans tous les aspects de nos vies, même dans les champs les plus surprenants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Miton, chercheuse à INRIA et chef de l'équipe FUN pour Futuo Ubiquitous Networks, qui travaille sur l'Internet des objets et les réseaux de capteurs. Nathalie, bonjour.
Bonjour.
Nathalie, vous venez nous parler d'un mariage entre les sciences du numérique et l'agriculture. Vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, bien sûr. Le numérique, c'est beaucoup de choses, avec beaucoup de recherches derrière dans différents domaines. Et l'agriculture, comme tout autre domaine, a besoin des avancées du numérique pour faciliter le travail des agriculteurs, pour permettre peut-être une agriculture plus durable, plus raisonnée.
Vous, en tant que chercheuse INRIA, qu'est-ce que vous apportez à l'agriculture ?
Moi, je travaille dans ce qui est réseau de capteurs sans fil, ce qui est Internet des objets, objets connectés. Ce sur quoi on travaille, en tout cas mon équipe travaille, c'est comment déployer des capteurs dans les champs et collecter ces données de façon à fournir aux agriculteurs des données plus précises attachées à des parcelles plus ou moins grandes suivant ce qu'ils veulent surveiller, de leur culture ou de leurs animaux. Donc, ce peut être une surveillance du taux d'humidité, de la température, du point de rosée, afin d'avoir une meilleure compréhension des phénomènes locaux qui se passent et pouvoir anticiper certaines actions à mener.
Comment vous en êtes venu à travailler sur l'agriculture et ses capteurs connectés ?
Alors, les réseaux de capteurs sans fil, c'est quelque chose... je regarde depuis plusieurs années et l'agriculture, finalement, c'est une application parmi d'autres, mais une application qui me tient à cœur. Déjà parce que je viens du monde rural, hein. Moi je viens du Charolais en fait. Et dans ma famille, il y a des éleveurs de vaches charolaises, donc ce n'est pas les champs, mais ça reste lié au monde de l'agriculture. Et les premiers travaux que j'ai menés sur les réseaux de capteurs sans fil pour l'agriculture sont nés de discussions que j'avais avec des collègues d'Afrique du Sud, de l'université de Stellenbosch, avec qui je travaille régulièrement, qui venaient de subir une grosse sécheresse qui avait impacté les vignes d'Afrique du Sud. Et de là, on a imaginé un système où on déployait des capteurs dans les vignes ou dans d'autres types de cultures pour pouvoir gérer assez finement les ressources, alors que ce soit l'arrosage, que ce soit l'apport en nitrate, ou que ce soit identifier les coins des vignes qui sont sujettes à un épisode de gel, par exemple. Des solutions telles que déployer des réseaux de capteurs dans les champs, on en voit beaucoup maintenant. Enfin, il y a plusieurs entreprises qui produisent même des capteurs, qui les déploient dans les champs. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas encore de solutions qui permettent de couvrir l'intégralité des parcelles, en tout cas pas dans tous les pays, en particulier en Afrique du Sud.
C'est des capteurs qui aujourd'hui sont largement utilisés. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, les sciences du numérique sont déjà très impliquées dans l'agriculture finalement.
Les sciences du numérique sont impliquées fortement dans l'agriculture et à plusieurs niveaux, dans tout ce qui est contrôle, pilotage automatique des machines agricoles dans les champs, surveillance par des drones, elles sont très présentes.
Est-ce qu'à terme, le but, c'est que tous les champs du monde disposent de capteurs ?
Non, bien sûr que non. L'idée, c'est vraiment de les installer, les déployer là où ils apportent une réelle plus-value. Alors après, ça peut être de façon temporaire également. C'est vraiment apporter une aide aux agriculteurs. Si l'apport est nul ou insignifiant, on préférera ne pas les déployer.
Et dans quel contexte est-ce que l'apport de ces capteurs, il est vraiment essentiel pour la culture ?
Il va aider à mieux réguler l'apport en ressources. Alors j'utilise ressources au sens large, mais par là j'entends un apport en engrais, l'irrigation et également certains traitements. Alors l'idée, ça peut être juste également de surveiller pour mieux comprendre comment on peut mieux réguler, mieux protéger les cultures.
Pour revenir sur ces capteurs, quel est ce sur quoi vous travaillez plus précisément ?
Nous, on va regarder deux choses. La première chose, c'est comment étendre la portée de ces réseaux, comment être agnostique d'un opérateur, comment pouvoir déployer dans des zones qui sont non couvertes par une technologie donnée. Et pour cela, on va travailler à la conception d'algorithmes dans lesquels chaque capteur, s'il ne capte pas d'antenne ou de station de base à qui envoyer ses données, il va les envoyer à un de ses semblables, un autre capteur qui, lui, est à portée radio en utilisant une technologie ou une autre, suivant l'importance de la donnée qu'il remonte, suivant ses ressources énergétiques et suivant l'endroit où il se trouve. Ça permet d'étendre les couvertures et de réduire encore plus les consommations d'énergie des capteurs. Donc ça, c'est le premier aspect qu'on va regarder. Et l'autre point sur lequel portent nos recherches, ça va être sur comment, toujours dans un souci d'économie d'énergie, comment économiser des communications, parce que c'est la communication qui va consommer le plus. Et pour cela, on va faire un petit calcul embarqué sur le capteur pour s'assurer que la donnée qu'on doit remonter, eh ben, elle ne peut pas être devinée ou reconstruite par le serveur en fonction d'algorithmes de prédiction ou autre.
C'est vraiment l'énergie, l'enjeu de ces capteurs. Le but, c'est de consommer le moins d'énergie possible pour que les capteurs durent le plus longtemps possible.
C'est consommer le moins d'énergie pour que les capteurs durent le plus longtemps possible, ou en tout cas qu'on n'ait pas besoin d'aller changer leur batterie trop souvent, mais ce, sans détériorer l'information. C'est pas parce qu'on réduit l'information que le capteur envoie qu'on réduit l'information qu'on a. Il faut vraiment qu'on ait une alternative pour récupérer la donnée qui n'a pas été envoyée.
Vous parlez donc de limiter ou en tout cas de mieux utiliser les ressources allouées au champ grâce à ces capteurs. Mais ces capteurs, ils ont aussi des ressources qui leur sont allouées en énergie, en électricité pour les faire fonctionner, aussi en matériaux pour les fabriquer et pour fabriquer les serveurs qui vont stocker les données issues de ces capteurs. Est-ce que c'est vraiment un moyen de limiter les ressources allouées au champ?
C'est un moyen de limiter les ressources allouées au champ. Après, c'est vrai que le bilan de fabrication et de maintenance de ces capteurs peut, on va dire, limiter les avantages qu'on a. C'est quelque chose, effectivement, dont il faut avoir conscience quand on déploie des capteurs. Quand je parlais, il faut bien évaluer le rapport bénéfice et coût. Dans coût, j'implique le coût global, pas seulement monétaire, le coût également pour l'environnement. Donc aujourd'hui, on envisage quand même des capteurs qui sont de plus en plus frugaux en ressources environnementales. On va tenter, quand on peut, de les équiper de moyens de récupération d'énergie, alors pas forcément des panneaux solaires, mais peut-être des petites éoliennes ou suivant l'usage qu'on en fait, peut-être des moyens piézoélectriques sur les mouvements qui vont récupérer de l'énergie de mouvement, par exemple. Et quant à la fabrication, il y a tout un temps de recherche qui s'intéresse à développer des nouveaux matériaux qui sont aussi efficaces que les matériaux qu'on a aujourd'hui, mais qui seront plus facilement récupérables, biodégradables et recyclables. Donc bien sûr, on n'en est pas encore là, et c'est pour ça qu'effectivement, c'est quelque chose à prendre en compte lorsqu'on étudie le bénéfice de déployer un tel réseau est positif.
Pour revenir sur cette notion d'information importante, comment est-ce qu'un capteur peut savoir quelle information est prioritaire par rapport aux autres?
Ce qu'on fait, c'est qu'on applique des algorithmes de machine learning simplifiés. Alors pourquoi simplifiés? Parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est que les capteurs sont très contraints en capacité de calcul et en taille mémoire. Donc, on simplifie des algorithmes de machine learning pour qu'ils puissent justement détecter un comportement anormal. Ce comportement, c'est le comportement de la donnée ou c'est le comportement des données remontées par ses voisins qu'il peut entendre, de façon à ce qu'il voit que les données qu'il a sont peut-être aberrantes. Alors, est-ce qu'elles sont aberrantes parce qu'il y a un dysfonctionnement ou est-ce qu'elles sont aberrantes parce que voilà, la température elle est passée de 10 degrés à 50 degrés parce qu'il y a un incendie qui s'est déclaré. Donc on fait tourner ce genre d'algorithme qui étudie si la donnée elle est critique ou pas et pour qu'il passe en mode alerte si c'est le cas.
Pour rentrer un peu plus dans le détail technique, comment est-ce que vous faites concrètement? Comment est-ce que vous abordez cette question de comment rendre plus efficace un capteur en particulier?
Dans un premier temps, je vais d'abord étudier les contraintes, j'ai envie de dire. Donc là, on a des contraintes liées aux endroits où on va déployer les capteurs pour voir ce qui peut impacter les performances des algorithmes. Et là, dans le cas de l'agriculture, ça c'est très important car suivant la culture qu'on va surveiller, on aura des résultats différents. Faut voir, c'est qu'on utilise des communications sans fil et une communication sans fil peut être impactée par tout un tas de facteurs extérieurs qu'on ne contrôle absolument pas. Donc déjà, ce peut être la météo, tout simplement. Ensuite, la visibilité du lien. Je veux dire, si deux capteurs sont apportés en ligne de vue, le lien peut être beaucoup plus stable que si bien sûr il y en a un peu caché derrière une colline. Dans le domaine de l'agriculture, en même temps, on va avoir d'autres effets. Par exemple, un champ de blé. Parce que le champ de blé, on a des moments où dans le champ, il n'y a rien. Mais le blé va pousser. Et donc, il va être plus ou moins dense. En plus, le blé, ça peut être très, très dense. Donc, ça va impacter, suivant la composition en eau de la culture, suivant la météo, suivant la période de l'année, tout ça va impacter notre signal radio. Donc ça va d'abord être la première étape. On va étudier quelles sont les contraintes qu'on a de ce côté-là, à quoi on va devoir faire face. Et ensuite, on imagine une solution qui pourrait fonctionner. Et puis on rentre un peu dans un cercle un peu itératif où on conçoit notre solution, vérifie déjà par la théorie qu'elle peut satisfaire les différentes contraintes qu'on a vues et remplir les exigences de l'application. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut avoir différents types de remontées d'informations. On peut avoir besoin de remonter une valeur régulièrement. Donc ça, c'est une donnée qu'on a peut-être besoin d'avoir une fois par jour, une fois par heure, suivant les cultures, mais qui aura une tolérance si on la reçoit pas à midi, mais qu'on la reçoit à midi et demi, c'est pas grave. À l'inverse, si on a une grosse alerte comme un incendie ou une grosse averse de grêle, il vaut mieux le savoir, disons, dans les 5 minutes. Enfin, je dis ça, c'est peut-être même moins suivant ce qu'on est en train de surveiller. Donc ça va être les contraintes fonctionnelles qu'on va devoir prendre en compte. Et quand théoriquement notre algorithme semble répondre à tout ça, on passe à la phase déjà de tests en laboratoire pour vérifier que fonctionnellement l'algorithme fait bien ce qu'on veut, pas seulement en théorie, mais déjà fonctionnellement en ayant du vrai matériel, est-ce qu'il réagit comme il faut? Et ensuite, on déploie dans des situations réelles pour vérifier tous ces éléments extérieurs, si on arrive à être robuste face à ces éléments extérieurs.
Comme vous le disiez, le projet à l'origine est venu d'un besoin des agriculteurs d'Afrique du Sud. Où en est la collaboration avec les chercheurs de ce pays?
Depuis ces discussions que nous avons initiées avec l'Université de Stellenbosch, les projets sont en cours. Donc ça, c'est possible grâce à un financement qu'on a obtenu par le LIRIMA, qui est un laboratoire INRIA Afrique, qui nous finance nos recherches justement sur ce sujet.
Et si on veut en apprendre plus sur les réseaux de capteurs en agriculture?
Pour les sciences du numérique en agriculture, donc c'est un peu plus large que les réseaux de capteurs, mais je vous invite à aller lire le livre blanc qui va bientôt sortir, un livre blanc qui est coédité par INRIA et l'INRAE.
Eh bien, merci beaucoup Nathalie Mitton d'avoir répondu à nos questions
Merci beaucoup.
et à bientôt sur Interstice.
À bientôt.
Chers auditeurs et auditrices, à la prochaine et n'oubliez pas les sciences du numérique sur Interstice.